Turin o Doriath. Durant les années de son enfance au royaume du Doriath, Turin fut pris en charge par Méliane, quoiqu'il ne la vit que rarement. Mais il y avait une jeune elfe, nommée Nélas, qui vivait dans les bois. Et sur ordre de Méliane, elle suivait Turin lorsqu'il s'en allait errer en forêt. Et souvent, ils s'y croisaient, comme par hasard. De Nélas, Turin apprit beaucoup concernant les coutumes du Doriath et la vie sauvage. Et elle lui enseigna le Sindarin tel qu'on le parlait dans l'ancestral royaume. Un parler plus ancien, plus courtois et plus riche en mots splendides. Et ainsi pour un temps, son humeur s'éclaira jusqu'à ce qu'il revienne à nouveau sous l'emprise de l'ombre, et alors cette amitié s'évanouit comme un matin de printemps. Car Nélas n'allait pas à Menegroth, et elle répugnait à marcher sous des voûtes de pierre. Ainsi, comme l'enfance de Turin passa, il tourna ses pensées vers les exploits des hommes, et il vit Nélas de moins en moins souvent, et finalement, il cessa de la chercher. Mais elle continua à veiller sur lui, bien qu'à présent, elle demeura cachée. 9 années durant, Turin vécut dans le palais de Menegroth. Mais son cœur et sa pensée le portaient sans cesse vers les siens, et de temps à autre, il recevait des nouvelles, et son cœur s'apaisait. Car Fingol envoyait aussi souvent que possible des messagers à Morwen, et elle renvoyait des nouvelles à son fils. Ainsi, Turin apprit-il que sa sœur Nienor croissait en beauté, une fleur dans la grisaille du Nord, et que la dure condition de Morwen s'améliorait. Et Turin grandit en stature, jusqu'à devenir un des plus grands parmi les hommes, et sa force et sa robustesse étaient célèbres au royaume de Fingol. Au cours de ces années, il apprit beaucoup de choses, écoutant avec avidité les récits des jours anciens, et il devint réfléchi et peu loquace. Souvent, Beleg, l'arc de fer, venait à Menegroth le chercher, et l'emmenait loin dans les bois, lui enseignant les arts forestiers et le tir à l'arc, et aussi, et c'est ce qu'il préférait, le maniement de l'épée. Mais il était moins habile à la fabrication d'objets divers, car il fut lent à maîtriser sa propre force, et souvent il gâchait ce qu'il avait fait d'un geste trop brusque. Dans d'autres domaines également, il semblait que la fortune lui soit contraire, de sorte que souvent ses projets avortaient, et ses désirs ne se réalisaient pas. Et il ne gagnait pas facilement l'amitié d'autrui, car il n'était pas gai, et il riait peu, et une ombre recouvrait sa jeunesse. Toutefois, ceux qui le connaissaient bien lui vouaient de l'amour et de l'estime, et il était honoré comme le fils adoptif du roi. Pourtant, il y en avait un qui jalousait les honneurs accordés à Turin, et toujours plus à mesure que Turin se faisait homme. Saeros, fils d'Ifilbor, était son nom. Il était du peuple des Nandor, l'un de ceux qui avaient cherché refuge au Doriath après la chute de leur seigneur Denethor sur Lamon Ereb lors de la première bataille du Beleriand. Ces elfes vivaient pour la plupart en Arthorien, entre l'Aros et la Kelon, à l'est du Doriath, et ils franchissaient parfois la Kelon pour errer dans les contrées au-delà. Et ils n'avaient pas d'amitié pour les Edain depuis leur passage à travers l'Ossiriand et leur établissement en Estolad. Mais Saeros vivait la plupart du temps à Menegroth, et il avait gagné l'estime du roi. Il était orgueilleux, traitant avec dédain ceux qu'il considérait de moindre condition et de moindre valeur que lui. Il avait obtenu l'amitié de Daeron le Ménestrel, car il était habile dans l'art du chant, et il n'avait point d'amour pour les hommes, et tout particulièrement pour les parents de Beren Ercamion.
N'est-ce point étrange, disait-il, que ce pays accueille encore un représentant de ce peuple malheureux. L'autre a causé suffisamment de dommages au Doriath.
C'est pourquoi il portait un regard mauvais sur Turin et sur tout ce qu'il faisait, disant tout le mal possible. Mais ses paroles étaient fourbes et sa vilenie voilée. Lorsqu'il rencontrait Turin seul à seul, il lui parlait avec mépris et lui manifestait clairement son dédain. Et Turin commençait à s'en hériter, bien que longtemps il répondit à ses paroles mesquines par le silence, car Saeros était puissant parmi les gens du Doriath et un conseiller du roi. Mais le silence de Turin déplaisait à Saeros autant que ses dires. En l'année de ses 17 ans, le chagrin de Turin s'aviva, car à cette époque, les échanges avec les siens s'interrompirent.
Le pouvoir de Morgoth n'avait cessé de croître et tout le Ithlum vivait maintenant sous son ombre. Très certainement, il en savait long sur les agissements de la famille de Húrin, et s'il les avait laissés en paix un temps, c'était pour que son terrible dessein s'accomplisse. Mais voilà que pour en venir à ses fins, il fit garder étroitement les passes des montagnes ombreuses, de sorte que personne ne puisse désormais sortir du Ithlum ni y entrer, sinon au péril de sa vie, et les orques fourmillaient vers les sources du Narog et du Teiglin, et le long du cours en amont du Sirion. Et il vint un jour où l'on ne revit plus les messagers de Thingol, et le roi n'en envoya plus. Il avait toujours répugné à laisser ses gens vaguer au-delà de ses frontières bien gardées, et rien n'avait si fortement marqué son bon vouloir envers Húrin et les siens que d'avoir dépêché ses messagers par les routes dangereuses auprès de Morwen au Dorlomin. Et Thorin s'attrista en son cœur, ignorant quel nouveau malheur le guettait et redoutant qu'un noir destin ait englouti Morwen et Nienor, et plusieurs jours durant, il demeura assis, silencieux, songeant à la chute de la maison de Hador et des hommes du Nord. Alors il se leva et s'en alla à la recherche de Thingol. Et il le trouva siégeant avec Melian sous Irilorn, le grand être de Menegroth. Thingol considéra Thorin avec étonnement, voyant soudain à la place de son fils nourricier un homme et un étranger, grand et noir de cheveux, qui le fixait d'un regard profond dans un blanc visage. Alors Thorin demanda à Thingol une cotte de maille, une épée et un bouclier, et il réclama à présent le haume du dragon du Dorlomin. Et le roi lui accorda ce qu'il demandait, disant « Je vais t'assigner une place parmi mes guerriers de l'épée, car l'épée sera toujours ton arme. À leur côté, tu pourras faire ton apprentissage de la guerre sur les marches du pays, si tel est ton désir. » Mais Thorin dit « Bien au-delà des marches du Doriath me porte mon cœur. Je languis de me mesurer à l'ennemi plutôt que de défendre les confins du pays. » « En ce cas, il te faut aller seul, » dit Thingol. « Je décide, selon la sagesse qui est mienne, du rôle que mon peuple doit assumer dans la guerre contre Angband, Thorin, fils de Húrin. Aucune force armée du Doriath n'enverrai-je guerroyer au-delà de mes frontières en ces temps, ni en aucun temps que je puisse actuellement prévoir.
Toutefois, tu es libre d'aller à ta guise, fils de Morwen, » dit Melian.
La ceinture de Melian ne s'oppose pas au passage de ceux qui y pénètrent avec notre consentement. À moins que de sages conseils ne te retiennent, dit Thingol.
Quels sont tes conseils, seigneur? Dit Thorin.
Un homme parais-tu de par ta stature, répondit Thingol. Cependant, tu n'as pas atteint la pleine maturité de l'homme que tu seras un jour. Lorsque ce temps viendra, peut-être pourras-tu te remémorer les tiens. Mais il n'y a guère d'espoir qu'un homme seul puisse faire plus contre le seigneur sombre que de soutenir l'action de défense des seigneurs elfes, tant que dure celle-ci.
Alors Thorin dit « Beren, mon parent, a fait plus. »
« Beren est Luthien, » dit Melian. « Mais il y a de la présomption à parler ainsi au père de Luthien. Ta destinée n'est pas si exaltée à ce que je pense, Thorin, fils de Morwen. Bien que ton sort soit noué à celui du peuple des elfes, pour le meilleur ou pour le pire. Prends bien garde à toi que ce ne soit pour le pire. »
Puis, après un silence, elle lui parla de nouveau, disant
« Va maintenant, fils nourricier, et écoute le conseil du roi. Et cependant, je crois que tu ne demeureras pas longtemps avec nous au Doriath, lorsque tu auras accédé à l'âge d'homme. Si dans les jours à venir tu te souviens des paroles de Melian, ce sera pour ton bien. Redoute tant l'ardeur de ton cœur que sa froideur. »
Alors Thorin s'inclina devant eux et prit congé. Et promptement il coiffa le haume du dragon et s'arma, et il s'en alla vers les marches septentrionales, et là il s'enrôla parmi les guerriers elfes qui combattaient sans relâche contre les orques et tous les serviteurs et les créatures de Morgoth. Et c'est ainsi qu'à peine sorti de l'enfance, il prouva sa force et sa vaillance. Et se souvenant des malheurs de son peuple, il fut toujours le premier à s'illustrer par de hauts faits d'armes, et il reçut de nombreuses blessures par la lance et les flèches et par les lames viciées des orques. Mais son destin lui épargna la mort,
et le bruit courut par les bois, et il retentit bien au-delà du Doriath, que le home du dragon du Dorlomin avait réapparu. Et nombreux furent ceux qui s'interrogèrent, disant « L'esprit de Hador ou de Galdor le Grand serait-il revenu du séjour des morts ? Ou Hurin du Ithlom s'est-il échappé des fosses d'Angband ?» Parmi les gardes frontaliers de Thingol, un seul à cette époque était plus aguerri que Turin dans le maniement des armes, et c'était Beleg Cuthalion. Et Beleg et Turin combattaient côte à côte dans tous les périls, et ils parcouraient les grands bois sauvages ensemble. 3 années s'écoulèrent de la sorte, et durant ce temps, Turin vint rarement au palais de Thingol, et il ne prêtait plus attention à son apparence et à ses vêtements, et ses cheveux étaient hirsutes, et sa cotte annelée couverte d'un manteau gris tout usé par les intempéries. Mais voici que le 3e été, comme Turin atteignait l'âge de 20 ans, désirant prendre un peu de repos et faire réparer ses armes par un forgeron, il vint à l'improviste un soir à Menegroth, et il entra dans la grande salle du trône. Thingol était absent, car au fort de l'été, il se plaisait à séjourner dans les vertes forêts en compagnie de Méliane. Turin se dirigea vers un siège sans prêter attention, car il était épuisé et préoccupé. Et la malchance voulut qu'il s'assît justement à une table d'anciens du royaume et à la place même où Saeros avait coutume de s'asseoir. Saeros, entrant tardivement, fut saisi de colère, croyant que Turin avait fait la chose par orgueil et pour lui faire un affront délibéré. Et sa colère ne fut guère apaisée lorsqu'il vit que Turin n'encourait aucun reproche de la part de ceux qui siégeaient alentour, mais au contraire, qu'on lui souhaitait la bienvenue. Un temps, Saeros feignit de lui faire bon visage et prit un autre siège face à Turin, de l'autre côté de la table. « Rarement le garde frontalier nous fait la faveur de sa présence, » dit-il, « et je lui cède bien volontiers mon siège coutumier pour le plaisir de m'entretenir avec lui. » Il dit bien d'autres choses encore, questionnant Turin sur les nouvelles des frontières et sur ses exploits dans les solitudes. Mais bien que ses paroles fussent courtoises en apparence, la raillerie dans sa voix ne se pouvait dissimuler. Lord Turin fut pris de lassitude, et il jeta un regard autour de lui et fut soudain frappé par l'amertume de l'exil. Et au-delà des lumières et des rires du palais des elfes, sa pensée retourna à Beleg et à leur vie au fond des bois, et plus loin encore, à Morwen, dans la maison de son père au Dorlomin. Et il fronça les sourcils, si noires étaient les pensées qui l'assaillaient, et il ne répondit pas à Saeros. Et sur ce, pensant que ce regard noir s'adressait à lui, Saeros ne maîtrisa plus sa rage, et il saisit un peigne d'or et le jeta sur la table devant Turin, s'écriant « Sans doute, homme du Ithlom, tu es venu en toute hâte à cette table, et on peut excuser ton manteau haillonneux. Mais rien ne t'oblige à garder la tête embroussaillée. Peut-être que si tes oreilles n'étaient pas couvertes, tu entendrais mieux ce que l'on te dit. » Turin ne répondit mot, mais il tourna ses yeux vers Saeros, et un éclair passa dans ses noires prunelles. Mais Saeros ne prit garde à la menace qui avait fusé, et poursuivit avec un regard de mépris, disant de façon que tous l'entendent « Si tous les hommes du Ithlom sont si sauvages et si terribles, que penser des femmes de leur pays ? Courent-elles comme des biches, revêtues de leur sale chevelure ?» Lord Turin empoigna une lourde coupe à boire et la lança au visage de Saeros, et celui-ci s'écroula en arrière gravement blessé. Et Turin tira son épée, et se serait jeté sur lui si Mablung le chasseur, assis à son côté, ne l'eût retenu. Et Saeros, se relevant, cracha du sang sur la table, et de sa bouche déchirée dit « Combien de temps allons-nous encore héberger cet homme des bois ? Qui est maître ici ce soir ? La loi du roi est rigoureuse envers qui blesse ses seigneurs dans les salles du palais, et pour celui qui tire l'épée, la proscription est le moindre châtiment. Hors du palais, je pourrai te répondre, homme des bois. » Mais lorsque Turin vit le sang sur la table, son humeur se glaça, et s'arrachant à la poigne de Mablung, il quitta la salle sans un mot. Et Mablung dit à Saeros, « Qu'est-ce qui te prend ce soir ? Pour ce mal, je te tiens responsable, et il se peut que la loi du roi juge qu'une bouche ensanglantée soit le juste prix de tes sarcasmes. Si ce jeune loup a des doléances, qu'il les soumette au jugement du roi.
répondit Saëros. « Mais tirer l'épée ici n'est d'aucune manière excusable. Hors de ce palais, si l'homme des bois brandit son épée contre moi, je le tuerai. »
« Cela ne me paraît pas si certain, » dit Mablung. « Mais si l'un ou l'autre est tué, ce serait une action mauvaise, plus digne d'Angban que du Doriath, et il en sortira d'autres maux encore. D'ailleurs, je pense qu'une ombre du Nord est venue jusqu'à nous et nous a effleurés cette nuit. Prends garde, Saëros, fils d'Ithilbor, de peur que tu n'accomplisses dans ta superbe les vœux de Morgoth, et souviens-toi que tu es des gens des Eldar. »
« Je ne l'oublie point, » dit Saëros.
Mais il ne tempéra pas son courroux, et la nuit durant, sa rancœur alla croissante, nourrissant son préjudice. Au matin, lorsque Turin quitta Menegroth pour retourner aux marches septentrionales, Saëros l'arrêta en se ruant sur lui par derrière, l'épée nue et l'écu au bras. Mais Turin, entraîné à la vie dans les solitudes, était toujours aux aguets, et il l'avait aperçu du coin de l'œil, et sautant de côté, il dégaina promptement et se tourna face à son adversaire.
« Morwen, s'écria-t-il, celui qui t'a bafoué va payer maintenant son injure !»
Et il fendit en deux l'écu de Saëros, et ils croisèrent le fer vivement. Mais Turin avait été depuis longtemps un rude école, et il était devenu aussi agile qu'un elfe et plus robuste. Bientôt il eut le dessus, et lui blessant le bras qui tenait l'épée, il tint Saëros à sa merci. Alors il mit le pied sur l'épée que Saëros avait laissé choir.
« Saëros, lui dit-il, tu as une longue course à faire, et les vêtements te seront un embarras, les cheveux te suffiront. »
Et le jetant brusquement à terre, il le dénuda, et Saëros éprouva la grande force de Turin et eut très peur. Mais Turin le laissa se relever.
« Cours !» lui cria-t-il. « Cours tant que tu peux. À moins que tu n'ailles aussi vite que le cerf, je viendrai derrière t'éperonnant. »
Et Saëros s'enfuit éperdu dans les bois, appelant désespérément au secours. Mais Turin venait derrière, le poursuivant comme un limier, et malgré sa vélocité et les détours qu'il prenait, toujours Turin l'aiguillonnait plus avant de son épée. Les cris de Saëros amenèrent nombre d'autres à la traque, et ils suivirent la course, mais seuls les plus rapides pouvaient soutenir le train des coureurs. Au premier rang de ceux-ci venait Mablung, et il était troublé en son esprit, car si les sarcasmes lui avaient paru blâmables, la malignité qui s'éveille au matin fait la joie de Morgoth avant la tombée de la nuit. Et de plus, c'était chose grave que de ridiculiser un elfe de plein gré et sans en référer à un juste jugement. Personne à l'époque ne savait que Turin avait été agressé le premier par Saëros et que celui-ci voulait sa mort.
« Assez, assez, Turin !» cria-t-il. « C'est faire œuvre d'orque dans les bois !»
Mais Turin répliqua « De la besogne d'orque dans les bois, pour des paroles d'orque dans la salle du palais !»
Et il se rua à la suite de Saëros qui, désespérant que l'on vienne le secourir et pensant que la mort le talonnait, courait toujours comme un fou jusqu'à ce qu'il arrivât au bord d'un torrent tributaire de l'Esgaldouin qui coulait dans une gorge profonde entre des parois abruptes, larges même pour un seau de serre. Cependant, mu par l'effroi, Saëros tenta sa chance et sauta. Mais il lâcha pied sur l'autre rive et tomba en arrière avec un cri, se fracassant sur un grand rocher à fleur d'eau. Ainsi acheva-t-il sa vie au Doriath, et Mandos n'allait pas le relâcher de sitôt. Turin contempla son corps gisant dans le torrent, et il pensa
« Misérable imbécile,
d'ici je t'aurais laissé revenir au pas jusqu'à Menegroth, et voilà que tu m'as posé sur les épaules le fardeau d'une culpabilité imméritée. »
Et il se tourna et regarda sombrement Mablung et ses compagnons qui s'approchaient et qui l'entourèrent sur la rive. Après un silence, Mablung dit
« Hélas, mais à présent viens avec nous, Turin, car le roi doit juger ses faits. »
Et Turin dit « Si le roi est juste, il me jugera innocent. Mais ce Saëros n'était-il point un de ses conseillers ? Comment se fait-il qu'un roi juste choisisse un cœur perfide pour ami ? J'abjure sa loi et son jugement. »
« Tes paroles sont peu sages, » dit Mablung,
bien qu'en son cœur il éprouva de la pitié pour Turin.
« Tu ne te feras pas vagabond. Je t'enjoins de revenir avec moi en ami. Et il y a d'autres témoins. Lorsque le roi apprendra la vérité, tu peux espérer son pardon. »
Mais Turin était là des palais des elfes, et il craignait d'être retenu captif. Et il dit à Mablung, « Je refuse de me plier à tes ordres. Je ne solliciterai aucun pardon du roi Thingol, et j'irai à présent là où ses arrêts ne peuvent m'atteindre. Tu n'as que deux choix, me laisser aller librement ou me tuer, si cela est conforme à ta loi, car vous êtes trop peu nombreux pour me prendre vivant. »
Ils lurent dans ses yeux sa résolution, et ils le laissèrent partir. Et Mablung dit,
« Il suffit d'une mort. »
« Je ne l'ai pas voulu, » dit Turin, « mais je ne le pleurerai point. Que Mandos le juge avec équité, et si jamais il revient au pays des vivants, qu'il se montre plus sage. Bonne chance à vous. »
« Libre chance à toi, » dit Mablung, « car tel est ton souhait. Mais qu'elle soit bonne, j'en doute, si tu t'en vas de cette manière. Une ombre est sur ton cœur. Lorsque nous nous retrouverons, espérons qu'elle ne se soit pas enténébrée plus encore. »
À cela, Turin ne fit aucune réponse, mais il les laissa et s'enfuit rapidement, nul ne sait où.